Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous. C'est certainement l'un des plus grands défis de l'humanité. Comment nourrir la planète tout en luttant contre le dérèglement climatique? Il faut changer en profondeur les pratiques agricoles et notre alimentation, selon le rapport du GIEC, le groupe d'experts des Nations Unies sur le climat, rapport publié ce matin, analyse avec Laura Dulieu dans un instant. Le corps d'un soldat israélien retrouvé et poignardé en Cisjordanie ce matin, au nord d'Hébron. Nous rejoindrons en direct notre correspondante Marine Vlahovic. Chez Ryanair, les pilotes britanniques ont voté la grève pour plusieurs jours fin août et début septembre. Précision d'Annabelle Grelier dans ce journal. En France, le parquet de Paris s'oppose à la libération du militant antifasciste Antonin Bernanos, condamné en 2017 à 3 ans de prison ferme pour avoir participé à l'attaque d'une voiture de police en mai 2016 à Paris. C'est désormais prouvé, l'hygiène de vie est un facteur majeur de prévention face à la maladie d'Alzheimer, selon une étude scientifique, nous dira Ilan Malka. Et puis à 12h45, ce sera la grande table d'été avec vous, Maëlys Bessery.
Oui, avec un hommage à l'écrivaine américaine Toni Morrison, disparue lundi, avec sa traductrice Christine Laferrière et des spécialistes Claudine Reynaud et Annie-Paul Miel de Prinsac, avant de faire le portrait du comédien metteur en scène Brandi Brontis Jodorowsky.
Merci, à tout à l'heure. Comment nourrir l'humanité tout en luttant contre le dérèglement climatique? C'est la question au cœur du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, publié ce matin à Genève. Alors qu'aujourd'hui, plus de 820 millions d'humains souffrent de la faim et que 30% des denrées produites par l'agriculture mondiale seraient détruites sans être consommées, ce document a été approuvé par les délégations de 195 pays membres du GIEC. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Alors vous avez pu consulter ce rapport. Sans surprise, les experts de l'ONU tire la sonnette d'alarme, il faut absolument changer notre façon d'exploiter les terres.
Exactement, un changement indispensable pour ne pas se retrouver face à un choix impossible, nourrir l'humanité ou lutter contre le changement climatique. Car le réchauffement des terres émergées, c'est-à-dire sans compter les océans, a déjà atteint 1,53 degré, c'est le double de la hausse globale des températures. Et à partir de 2 degrés de réchauffement, les crises alimentaires seront plus violentes et plus fréquentes. Il faut donc impérativement changer notre façon d'exploiter les terres pour qu'elles puissent à la fois nourrir la population mondiale, assurer les besoins de la biodiversité, donner du travail à des milliards de personnes et aussi capturer autant que possible les milliards de tonnes de carbone qu'on rejette dans l'atmosphère. Et tout ça, ça passe par plusieurs solutions avancées par le rapport, comme un reboisement massif, une déforestation réduite ou encore la conversion de champs aux bioénergies. Mais attention, le GIEC prévient que des conversions de terres à trop grande échelle peuvent aussi avoir des effets secondaires problématiques, comme une désertification ou une dégradation des sols.
Donc la solution n'est pas que sur les terres agricoles, Laura.
Et non, au contraire, c'est aussi et surtout dans nos assiettes que le changement doit se faire. Vous l'avez dit, 25 à 30% de la production totale de nourriture est gaspillée. 820 millions de personnes environ souffrent de la faim, alors que pendant ce temps-là, 2 milliards d'adultes sont en surpoids ou obèses. Il faut donc absolument d'une part éradiquer le gaspillage alimentaire et d'autre part réduire notre consommation de viande, en particulier dans les pays développés où l'apport en protéines animales dépasse largement les recommandations de l'OMS. Cela aurait un réel impact sur les rejets de gaz à effet de serre sans avoir besoin de consommer plus d'espace agricole. Bien au contraire, diminuer l'élevage permettrait de libérer des millions de kilomètres carrés de terre. Et autant dire qu'on va en avoir besoin, c'est plus de 11 milliards de personnes qu'il faudra nourrir à la fin du siècle.
Merci Laura Dulieu. Ce rapport est un constat scientifique alarmant, a réagi ce matin le député écologiste Mathieu Orphelin. Les experts de l'ONU publieront eux fin septembre un rapport qui portera cette fois sur les océans. Nous partons maintenant en Cisjordanie. Le corps d'un jeune soldat israélien de 18 ans a été retrouvé tôt ce matin, poignardé dans un secteur sensible de ce territoire palestinien occupé entre les villes de Bethléem et d'Hébron. Marine Lovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondante de France Culture dans la région en direct de Jérusalem. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a immédiatement qualifié les faits d'attaque terroriste.
Oui, à une réaction immédiate de Benjamin Netanyahou qui a aussitôt annoncé une opération pour, je cite, capturer ce sale terroriste et lui régler son compte. L'armée de son côté laisse filtrer très peu d'informations et mène actuellement une véritable chasse à l'homme au sud de la Cisjordanie. Le soldat de 19 ans était porté disparu depuis hier. Son corps a été retrouvé à l'aube à quelques dizaines de mètres seulement de l'école juive où il étudiait dans le bloc de colonie de Gouch Etzion entre Bethléem et Hébron et à proximité d'une route très empruntée par les Palestiniens. Les médias israéliens évoquent une tentative de kidnapping ratée. La jeune recrue aurait été poignardée à mort, puis laissée à l'entrée de la colonie. Et selon les forces de sécurité, rien ne permet d'affirmer à ce stade s'il s'agit de l'action d'une cellule ou bien d'un acte isolé. L'acte a été salué par le djihad islamique et le Hamas, mais il n'a pas été revendiqué en bonne et due forme par ces factions palestiniennes. L'émoi est vif en Israël, car impossible ici de ne pas penser à l'enlèvement de 3 adolescents israéliens dans la même région il y a 5 ans. Un enlèvement qui avait conduit alors Israël à mener l'opération Plomb durci contre la bande de Gaza.
Merci Marine Vlahovic à Jérusalem pour France Culture. 31 familles yézidis victimes du groupe État islamique sont arrivées en France ce matin pour y être accueillies, a annoncé le Quai d'Orsay dans un communiqué. Le vol en provenance d'Erbil dans le Kurdistan irakien s'est posé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, précise ce communiqué des affaires étrangères. Un préavis de grève déposé chez Ryanair. Cette fois, il émane des pilotes britanniques de la compagnie aérienne à Bakou. Ils ont voté hier en faveur d'un arrêt de travail les 22 et 23 août prochains, ainsi que du 2 au 4 septembre. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour.
Alors, les salariés protestent contre leurs conditions salariales, alors que Ryanair serait sur le point de supprimer 900 postes.
Oui, Michael O'Leary, le directeur général, invoque notamment une baisse de croissance due au retard de livraison d'avions 737 MAX de Boeing, et puis la menace d'un Brexit sans accord fin octobre. Ryanair, qui reste la première compagnie à bas coût d'Europe en nombre de passagers transportés, traverse surtout une zone de turbulence sociale depuis 2 ans, dont il n'arrive pas à sortir. Contraint en 2017 de reconnaître les syndicats pour la première fois en 32 ans d'existence, il croyait en avoir fini avec les mouvements de grève, en améliorant quelque peu les conditions de travail, en signant des accords sur les salaires et indemnités avec de nombreux syndicats européens. Eh bien non, cette fois-ci ce sont les syndicats britanniques qui tirent les premiers. Ils estiment que les discussions entre Ryanair et les syndicats de pilotes en Espagne, en Irlande, en Suède et en Allemagne ont très peu progressé. D'ailleurs, les pilotes irlandais décideront demain s'ils rejoignent le mouvement. Des pilotes qui, de toute façon, sont en position de force. L'explosion du transport aérien a créé une pénurie mondiale de pilotes de ligne. Le modèle low cost, flexibilité et optimisation des coûts a peut-être atteint ses limites.
Merci Annabelle Grelier pour toutes ces précisions. L'ONG Human Rights Watch publie un rapport très alarmant sur la situation dans le nord de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela. Un rapport que vous avez pu consulter, Nathanaël Charbonnier.
D'une bataille que l'on a crue politique, on est passé à une guerre des gangs. Il est loin le temps des FARC révolutionnaires qui luttaient contre les grands propriétaires terriens colombiens. Aujourd'hui, si le mouvement continue de se battre, c'est surtout pour régner sur des territoires. Et aux FARC se sont joints d'autres groupes, dont les principaux, l'Armée de Libération Nationale et l'Armée Populaire de Libération. Sur le terrain, cette bataille d'influence est terrible, car tous les moyens sont bons pour s'imposer. L'ONG explique ainsi que les jeunes sont transformés en enfants soldats dès l'âge de 12 ans. Des témoignages parlent de morts dues à des mines antipersonnelles, mais l'on peut ajouter aussi des kidnappings et autres agressions en tout genre. La situation est grave pour les Colombiens, mais elle n'épargne pas non plus les Vénézuéliens qui passent obligatoirement par la région pour fuir leur pays. Human Rights Watch, avec son rapport, tire donc la sonnette d'alarme et propose surtout aux autorités une vingtaine de mesures censées protéger plus efficacement les populations locales.
Nathanaël Charbonnier. En Hongrie, la dernière campagne publicitaire de Coca-Cola suscite la controverse. Les affiches visibles dans le métro et dans les rues de Budapest représentent des couples hétéros et homosexuels avec la légende suivante « Zéro sucre, zéro préjugé ». Une campagne jugée provocatrice par les conservateurs hongrois qui accusent la marque américaine de faire la promotion de l'homosexualité. À Budapest, Florence Labruyère.
L'amour, c'est l'amour, clament les affiches où l'on voit deux femmes puis deux hommes partager une bouteille de coca. C'est à l'occasion du festival de musique Sziget, le Woodstock de l'Est, qui démarre aujourd'hui à Budapest, que la marque américaine a lancé sa campagne. Elle cible les jeunes festivaliers débarqués de toute l'Europe. Mais les bulles, ça ne passe pas chez les ultra-conservateurs hongrois. Un député du parti de Viktor Orban appelle à boycotter la marque. Et un journal proche du pouvoir dénonce une offensive du lobby homosexuel. Mais de nombreux artistes et politiciens d'opposition réagissent. Ils se prennent en photo avec la boisson gazeuse en affirmant « l'amour, c'est l'amour ». Un slogan détourné avec humour par les internautes qui publient des photomontages d'un couple uni, cette fois, par l'amour de l'argent. Viktor Orban est son oligarque préféré qui rafle la majorité des fonds européens. Pour sa part, la communauté LGBT de Hongrie s'interroge. Difficile de savoir si la controverse est due à quelques personnalités homophobes ou si elle est orchestrée par le pouvoir. En tout cas, le Premier ministre hongrois s'est gardé d'intervenir. Son parti a simplement déclaré « La Hongrie est un pays libre et chacun a le droit de décider s'il boit ou non du Coca-Cola ». Viktor Orban sait que ses compatriotes sont de plus en plus tolérants. Il y a 15 ans, ils étaient une minorité à accepter l'homosexualité. Aujourd'hui, 2/3 des Hongrois estiment que les homosexuels doivent être libres de vivre comme ils l'entendent.
Florence Labruyère à Budapest pour France Culture. Alors qu'en Méditerranée, l'Ocean Viking, le nouveau bateau de secours de SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, se dirige actuellement vers le large des côtes libyennes, après avoir essuyé le refus de Malte pour se réapprovisionner en carburant hier. Le parquet de Paris s'oppose à la libération du militant antifasciste Antonin Bernanos. L'étudiant de 24 ans était devenu une figure des mouvements de gauche lors du procès de l'attaque d'une voiture de police en mai 2016, quai de Valmy à Paris, au moment des manifestations contre la loi travail. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors Antoine Bernanos avait été condamné en octobre 2017 à 3 ans de prison ferme.
Et Antonin Bernanos est libéré en 2018 grâce à un aménagement de peine. Il termine sa période de liberté conditionnelle le 10 avril dernier. 5 jours plus tard, il est interpellé pour une rixe qui oppose des militants de l'ultra-gauche à des identitaires d'ultra-droite. Il est placé en garde à vue, mis en examen pour violence en réunion et vol avec violence. Il est maintenu en détention provisoire. Le 2 août, lors d'une audience à huis clos, le juge des libertés et de la détention décide de l'autoriser à sortir de prison sous bracelet électronique. Mais le parquet fait appel 4 jours plus tard. L'étudiant reste donc en détention provisoire. L'avocat d'Antonin Bernanos, maître Harry Halimi, dénonce une décision politique.
Il y a pas mal de choses qui nous font penser qu'on est plus dans la politique que dans le droit pur dans cette affaire. D'abord parce que effectivement on a choisi la voie de l'instruction pour une banale bagarre de rue. Deuxièmement parce que c'est le seul à avoir été placé en détention provisoire sur au départ 9 personnes qui étaient interpellées et 6 personnes mises en examen. Ensuite, parce qu'on lui a fait subir un traitement pénitentiaire assez particulier depuis qu'il est en détention provisoire. D'abord, il a été à Fresnes, on l'a placé à l'isolement médiatique. C'est un régime qui n'existe pas légalement, mais qui lui a été appliqué. Ensuite, on l'a transféré très rapidement dans une autre maison d'arrêt, la maison d'arrêt de la santé. Et on a voulu le transférer en dehors du ressort interrégional de l'Île-de-France, probablement pour le casser psychologiquement. Ensuite, parce qu'on s'oppose à toutes ces demandes de remise en liberté, alors que dans le dossier, il n'y a pratiquement rien.
La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris va prochainement statuer sur la mise en liberté d'Antonin Bernanos. Elle doit examiner le dossier lundi prochain.
Merci Antoine Marette. 4 nouvelles permanences de députés La République En Marche ou Modem vandalisées la nuit dernière dans la Vienne, murées, taguées, certaines aussi avec un déversement de fumier, notamment celle de Sacha Houlier. Depuis juillet, c'est le cas de près d'une 20aine de permanences de parlementaires. Il s'agit de nouvelles actions pour protester contre le CETA, l'accord de libre-échange ratifié il y a 2 semaines par l'Assemblée nationale. Un espoir dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence qui touchent aujourd'hui 50 millions de personnes dans le monde. La santé du cerveau dépend aussi de l'hygiène de vie, même des petits progrès dans une alimentation plus saine. Un peu plus de sport serait un moyen très efficace de prévention contre le développement de la maladie d'Alzheimer chez les personnes de 50 ans. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Un principe qui semble tomber sous le sens mais qui vient d'être prouvé scientifiquement selon une étude publiée hier.
Oui, cette étude donc de l'INSERM apparaît rassurante sur la prévention d'Alzheimer à l'heure où il n'existe toujours aucun traitement pour guérir la maladie. Quelques 8000 personnes ont été suivies depuis leurs 50 ans et sur 30 ans et les résultats sont clairs. Plus on fait attention à son niveau de santé cardiovasculaire, plus le risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer est réduit. Archana Singh-Manu a dirigé l'équipe de l'INSERM qui a mené cette étude et pour elle, oui, ses gestes au quotidien permettent de se préserver.
Manger bien, faire du sport, ne pas boire beaucoup d'alcool et gérer les facteurs cardiovasculaires. Donc ça, c'est très important, la tension systolique, le cholestérol.
Alors, dans les bonnes nouvelles de cette étude, chaque augmentation de 1 point de ce qu'on peut appeler le score général de santé cardiovasculaire est associée à une réduction similaire de 1 point donc du risque de démence. En gros, chaque petit effort porte ses fruits. Nathalie Cartier est chercheuse à l'INSERM. Elle n'a pas travaillé sur cette étude, mais elle est spécialiste de la maladie d'Alzheimer.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit une étude qui montre cette corrélation à un âge de 50 ans, qui montre qu'il est important d'avoir une qualité de vie très bonne à partir de très tôt dans la vie pour pouvoir éviter l'apparition de maladies dégénératives qui évoluent pendant très nombreuses années avant d'être visibles.
La maladie d'Alzheimer et les autres démences touchent, on le rappelle, 50 millions de personnes dans le monde.
Merci Ilan Malka. Un petit point sur la météo avant de retrouver la grande table d'été. Quelques nuages de passage dans le ciel cet après-midi, entrecoupés d'éclaircies au nord d'une diagonale qui va de la Franche-Comté à la Nouvelle-Aquitaine. De la pluie sur le quart nord-ouest, de la Normandie au littoral des Pays de la Loire, grand soleil au sud. Les températures sont comprises entre 21 et 32 degrés du nord au sud, avec 21 degrés à Saint-Malo, 29 à Paris, jusqu'à 32 degrés à Marseille cet après-midi. C'est la fin de cette édition préparée avec Benjamin Ducy. Prochain journal de la rédaction, ce sera à 18h sur France Culture.